Au gré du temps, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. On estime à plus de 13 millions le nombre de Canadiens qui consacrent du temps à l'action bénévole. Le bénévolat demeure un moyen privilégié de se sentir utile tout en offrant une gamme diversifiée de services à la population. Notre invité a décidé il y a 15 ans de s'engager activement dans le bénévolat. Il a bien voulu accepter notre invitation pour saluer tous ces bénévoles qui, au gré du temps, font la différence par leur action. Avec nous, avec grand plaisir, Ronald Grenon, retraité de l'enseignement et fier bénévole. Bonjour à vous.
Bonjour.
Monsieur Grenon, vous avez décidé un jour, après avoir fait une carrière quand même assez importante dans l'enseignement, de vous consacrer bénévolement auprès de ceux qui en avaient vraiment besoin.
Oui, après 30 ans dans l'enseignement, j'ai resté 2 ans à la maison avant de me décider, parce que c'était une maison spéciale, une maison de soins palliatifs pour les personnes qui vont mourir, coudonc, faut pas avoir peur des mots. C'est des personnes qui en phase terminale, et puis quand j'ai décidé, je suis parti, puis...
On peut le dire, il s'agit de la maison Victor Gadebois,
oui,
qui est située à Belœil.
À Saint-Mathieu-de-Belœil, exactement. C'est une maison qui a présentement 13 chambres, et puis qui existe depuis 1992. Et c'est une maison, pour moi, c'est la meilleure, naturellement. Et puis, je suis bénévole dans la cuisine.
Est-ce que vous avez décidé d'abord d'aller faire du bénévolat spécifiquement auprès des personnes mourantes ou c'est un concours de circonstances qui a fait en sorte que vous vous y êtes retrouvé?
Non, c'était... quand j'ai quitté l'enseignement, je voyais dans le journal local qu'on demandait des bénévoles dans la cuisine. C'était mon choix, la cuisine.
Parce que vous êtes un bon cuisinier.
Non, j'étais pas un bon cuisinier dans
le temps. Mais vous l'êtes devenu.
C'est ça, oui, avec les bons soins des cuisinières présentes. Et puis, je savais que il fallait que je meuble un peu mon temps, parce qu'on a du temps quand même. Et puis, j'ai appelé, j'ai rencontré la directrice des bénévoles, mais il n'y avait pas de place dans la cuisine.
Mm-hmm.
Alors, elle dit, j'ai besoin pour le gazon, j'ai besoin pour la neige l'hiver,
oui,
mais j'ai pas aimé ça. Parce que l'hiver, quand il y a une tempête, il faut que les trottoirs soient déblayés,
oui,
dans l'heure qui vient, puis tout ça, fait que t'es obligé d'y aller au moins 2-3 fois par jour, des fois, l'été, mais ce que j'aimais moins aussi, c'est que je travaillais seul.
Alors que quand vous étiez enseignant, vous étiez habitué au travail d'équipe, à
c'est
la collaboration.
Oui, ouais, on est en équipe, et quand je suis rentré dans la cuisine, ben là j'ai rencontré, on rencontre d'autres bénévoles, parce que faire le gazon avec un tracteur, t'es tout seul sur le tracteur, je voyais les personnes, les malades, je les voyais, mais j'étais pas à l'aise avec eux. C'est avec le temps, là, qui...
Donc, il faut apprivoiser aussi,
oui, 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 oui,
l'acte bénévole que l'on pose, parce que c'est pas nécessairement d'une évidence formelle.
Non, 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 c'est pas... au début, oui, on a de la misère à les regarder dans les yeux, là, parce que... mais c'est pas ça qu'ils veulent.
Vous nous proposez aussi, tout au cours de la prochaine heure, de merveilleuses pièces musicales. La première, quelle est-elle?
La première, c'est le deuxième mouvement adagio du concerto de Juan Ruiz de Joaquim Rodrigo.
Vous savez que ce concerto date de 1939, lors du dernier séjour de Rodrigo à Paris. Rodrigo, qui était aveugle, qui a écrit 5 concertos pour guitare, c'est le plus connu, évidemment. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle Concerto d'Aranguillez?
Non.
Ça tire son nom des jardins du palais royal d'Aranjuez, initialement construit pour Philippe II d'Espagne et notablement remanié au milieu du 18e siècle pour Ferdinand VI d'Espagne. Et Joaquín Rodrigo a souhaité que son concerto transporte l'auditeur dans un autre espace et un autre temps. Il dit que son œuvre capture les fragrances des magnolias, le chant des oiseaux, les ruissellements des fontaines, bref, votre environnement, Victor Gadbois, quand vous faites votre pelouse.
Oui.
Et le deuxième mouvement, marqué Adagio, que nous allons entendre, évoque les jours heureux de la lune de miel qu'a partagé Rodrigo avec son épouse Victoria. Et en même temps, il a déjà mentionné de son vivant que ça exprimait aussi la déception qu'il a eue quand il a vu que la première grossesse de son épouse était infructueuse. Alors, on écoute le concerto, deuxième mouvement d'Adagio du concerto Aranjuez. Et à la guitare, on y reviendra, c'est Paco de Lucía.
Thank you.
On a pu entendre l'Adagio du concerto d'Aranguillez, interprété par Paco de Lucia et l'orchestre de Caracas sous la direction d'Edmond Coulumier. Paco de Lucia est décédé le 25 février 2014 à Playa del Carmen au Mexique. Il avait 67 ans et cette pièce nous était proposée par Ronald Grenon, qui est un bénévole émérite, peut-on dire, et vous appréciez particulièrement cette pièce.
Oui, parce que j'ai vu Art TV, à un moment donné, l'histoire de ce monsieur Aranguillez, là, avec sa femme. Je me souviens pas de tous les détails. J'aurais aimé le revoir, mais ça n'a pas donné. Je sais qu'il y a eu... quand il a composé ça, il y avait beaucoup de peine, et on sent la peine dans sa pièce musicale.
Tout à fait, comme on le mentionnait, la déception, entre autres, à l'égard de la grossesse infructueuse de son épouse. Le guitariste Paco de Lucia est considéré par plusieurs flamencologues comme le meilleur guitariste de flamenco de tous les temps, et l'un des meilleurs instrumentistes de l'histoire de la guitare. Je regarde le technicien qui est un excellent guitariste lui-même pour voir s'il opine et semble-t-il qu'il est d'accord. On dit cependant que malgré sa maîtrise de la guitare dans toute sa dimension traditionnelle, les puristes ne lui ont jamais pardonné ses ouvertures au jazz et estiment qu'il a trahi les racines du flamenco. Alors ça, ce sera à tous de juger s'il a trahi ou non. Mais revenons à vous, Ronald Grenon, bénévole. Est-ce que le fait de vous retrouver bénévole a mis de la valeur à votre retraite?
Ah ben oui, parce que moi, là, une journée par semaine, c'est pas beaucoup, et c'est immense en même temps. Parce que les journées où j'ai pas pu, les semaines où j'ai pas pu y aller, bien, les semaines sont extrêmement longues. C'est comme ça.
Quand vous dites longues, c'est que vous avez déjà hâte d'y retourner.
Oui. Ah, oui. C'est inscrit dans mon temps. Puis quand c'est fini, bien là, j'ai travaillé surtout le mardi. Mm-hmm. Le jeudi. Le mardi, après le dimanche, il y a une journée. Puis après, ben c'est ma journée de bénévolat. Puis quand on prend des rendez-vous, ben là, on regarde. J'aimerais ça, peut-être, avoir une autre journée. C'est ma journée de bénévolat. Toujours, là, tout est centré là-dessus, quand même.
On parle de Pavarotti maintenant, puis on enchaînera parce qu'il y a un lien peut-être à faire. Vous nous proposez un extrait de Turandot de Giacomo Puccini. La pièce a pour titre...
Nessun Dorma.
Pourquoi donc?
Ah, Nessun Dorma, pour moi, je ne sais pas, mais à chaque fois que je l'entends, je me sens transporté avec des frissons. Et c'est arrivé... Là, on va entendre Pavarotti.
Oui.
Mais j'ai déjà... on était à Saint-Hilaire dans un concert où il y avait le cœur de la montagne. Et j'écoutais Nessun Dorma et j'ai jamais vécu d'émotion comme ça. C'était pas Pavarotti, là. Mais... L'émotion que le cœur et tout, là, que ça m'a donné, ça, j'ai plus jamais revécu ça. Puis c'était pour moi le summum de l'écoute là, de Nessun Dorma.
Nessun Dorma, interprété par Luciano Pavarotti, et c'était le chœur John Adlis et le chœur des écoliers de Wandsworth, ainsi que l'Orchestre philharmonique de Londres sous la direction de Zubin Mehta qui interprétait le tout. Je disais qu'il y avait un lien à faire avec le bénévolat parce que Nessun Dorma, ça veut dire que nul ne dorme, que nul ne dorme. Et je pense que quand on est bénévole, on n'a pas le temps de s'endormir parce qu'on complète finalement la tâche qui est souvent faite par d'autres professionnels et auxquels ils n'ont pas nécessairement le temps de se donner.
Ben moi, je dis que s'il n'y avait pas de bénévolat au Québec ou donc partout, là, ben il y a bien des institutions qui tomberaient. Là. Oubliez pas que nous sommes au-dessus de 140 bénévoles. Il y en a dans toutes les sphères. Là.
Et là, on parle de 140 bénévoles à Victor Gadebois, à la maison Victor Gadebois.
Oui, seulement. Là. Seulement. Et il y en a à l'extérieur, pour le terrain. Il y en a pour les soins aux malades. Il y en a... je suis dans la cuisine. Mais on a besoin de repeinturer une chambre. C'est des bénévoles qu'on demande. Et il y a aussi, je fais du bénévolat aussi avec ma conjointe. Là, à l'extérieur, comme vendredi passé, on était à Belleuil pour la vente des objets d'aéroport là, qui sont confisqués là, quand on...
Par exemple, les briquets,
les couteaux, tous les objets. Là,
et ça, vous les récupérez, vous les vendez pour obtenir des fonds?
Bien, on ne dit pas qu'on les vend.
D'accord.
On vous donne l'objet et vous nous donnez
une contribution.
Un don. C'est un don qu'on fait pour la maison. Et c'est une... parce qu'on ne faut pas oublier que la maison, pour fonctionner, ça marche à coups de millions. Là.
Oui.
Et il faut aller en chercher de l'argent.
Parfait. Bien, on va aller faire un petit tour, si vous voulez, dans l'Ouest. C'est vous qui nous amenez là.
Il était une fois dans l'Ouest, oui, parce que dans l'Ouest, on ne sait pas, dans l'Ouest de... surtout des États-Unis, je crois.
Ou de l'Italie, parce que c'était extrait de ce qu'on a appelé les Western Spaghetti, la musique d'Ennio Morricone. Mais là, on va vous faire entendre quelque chose qui est interprété par l'Orchestre philharmonique de Győr, sous la direction de István Cilio, et Kotitsa Ilieni va l'interpréter sur un instrument inusité. Là, j'ai hâte de voir les yeux du technicien pour savoir si lui-même connaît ça. Le térémine. Vous savez ce que c'est? Oui. Alors, c'est un des plus anciens instruments de musique électronique qui a été inventé en 1920 par le Russe Lev Sergeevich Termen, connu sous le nom de Léon Térémine. Composé d'un boîtier électronique équipé de deux antennes, l'instrument a la particularité de produire de la musique sans être touché par l'instrumentiste. Le son est produit à partir d'un signal électrique engendré par un oscillateur. Son timbre, Ronald, vous allez trouver ça assez magnifique, ressemble étrangement à celui de la voix humaine et la pièce « Il était une fois dans l'Ouest » que vous nous proposez se prêtait tellement bien à faire entendre cet instrument, alors on va l'écouter.
Merci.
J'avais aimé ça, Ronald.
Ben oui, parce que pour moi, le plus bel instrument qu'on peut trouver dans la musique, c'est la voix féminine.
Et c'est vrai que ça s'y rapproche, le theremin.
Ah, extrêmement. Oui, c'est... Moi, je pense, quand on ne sait pas, on ne pourrait pas deviner.
Et je vais vous raconter un petit bout d'histoire sur cet instrument, parce que c'est intéressant. Ça nous fait pénétrer dans l'histoire presque de la Russie. En fait, l'invention de Léon Theremin a suivi de près la Révolution russe de 1917, la Révolution bolchevique. Mm-hmm. Ayant eu la chance de faire une démonstration convaincante à Lénine, son instrument fut immédiatement promu par le nouveau pouvoir, le pouvoir soviétique. Lénine prit des leçons de Theremin, paraît-il, et en a commandé 600 exemplaires afin qu'ils soient distribués partout en URSS. De plus, Theremin fut envoyé en tournée mondiale comme ambassadeur de la nouvelle technologie qu'il avait, évidemment, inventé, mais qui était maintenant devenue une technologie soviétique. Le succès fut au rendez-vous en Europe et plus tard aux États-Unis, de telle sorte que l'ingénieur est allé s'installer aux États-Unis, a obtenu un brevet en 1928. Il concède ses droits de production de l'instrument à la firme RCA Victor. Mais RCA n'en a pas fait une grande réussite commerciale. Vous avez probablement d'autres instruments à promouvoir ou d'autres artistes à faire chanter. En 1938, Theremin retourne donc brusquement en Union soviétique. On raconte qu'il a probablement été kidnappé par des espions russes, qui n'étaient pas très heureux de le voir aux États-Unis. Alors, paraît-il aussi qu'il est parti des États-Unis parce qu'il y avait de très grands problèmes fiscaux et financiers avec les Américains. À son retour, on peut presque deviner ce qui s'est produit. On l'a emprisonné et on l'a envoyé dans le goulag. On le fit travailler sur d'autres projets de recherche en électronique et particulièrement, vous ne serez pas surpris, sur des appareils d'espionnage au plan sonore. Il avait, paraît-il, inventé un appareil qui pouvait entendre à travers les murs. Et il sera réhabilité pour son œuvre en 1956. C'est une belle histoire quand même. Et tout ça parce que vous nous avez proposé. Il était une fois dans l'Ouest. Vous voyez, même en étant bénévole, vous avez fait une forme de bénévolat au plan musical. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Revenons. On va enchaîner tout de suite parce que là, j'ai beaucoup parlé, hélas. On va enchaîner tout de suite avec une autre pièce que vous nous proposez, qui n'a rien à voir avec le russe, mais qui a beaucoup à voir avec le français.
Oui. Pour moi, ça prenait un français pour valoriser notre belle langue, qui est le français, naturellement. Et c'est Yves Duteil dans La langue de chez nous.
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe, et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même aux torrents qui charrient du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques. Elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.
La langue de chez nous, interprétée par Yves Duteil, proposée par Ronald Grenon, qui est lui-même bénévole au centre, ben, à la maison Victor Gadebois, à Saint-Mathieu-de-Belleuil, disiez-vous.
C'est ça, oui.
Votre contact avec les personnes en phase terminale, est-ce qu'au départ, ça a été difficile? Est-ce qu'on peut apprivoiser cet accompagnement?
Oui, 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 parce que c'est pas qu'on devient sensible. Mais il faut tout simplement penser que je crois que ces gens-là, ce qu'ils ont besoin, puis ça m'a été dit, c'est que de les regarder et de les comme si ils étaient pas malades. Ils n'ont pas besoin qu'on s'apitoie sur leur sort. Oui, c'est sûr que c'est pas drôle, là, mais ils veulent nous voir rire. D'abord, la première des choses, c'est dans un environnement qui est très, comment on peut dire, là, on n'a pas des faces de bois, là. Tout le monde, on parle, on rit, ça ne nous empêche pas d'être joyeux. Et la maison, c'est sûr qu'il y a des malades qui aimeraient peut-être avoir un peu... Bon, ils ferment la porte, ils veulent un petit peu dans leurs affaires, puis tout ça, là. Mais normalement, les portes sont ouvertes, et puis les gens se promènent, les gens parlent, les gens rient. Puis il y en a souvent qui viennent avec leur animal préféré, là. Et, ils mettent une espèce de barrière à la porte, c'est marqué « chat ». En liberté, ou chien en liberté.
Alors, on veut leur permettre de vivre ces derniers instants tout comme si la vie était toujours présente.
Oui, d'ailleurs, le slogan de la maison, c'est « Pour que la vie continue ».
Thank you.
On vient d'entendre les Gnossiennes, en fait la Gnossienne numéro 1 d'Éric Satie. Pourquoi aviez-vous proposé cette pièce?
Ben la principale raison, c'est que c'est beau. Puis, j'avais une nièce de ma conjointe qui, à chaque fois que, lorsqu'elle était plus jeune, dans son adolescence, il y avait un piano, je m'assoyais à côté d'elle, et puis elle me jouait toujours du Satie. Et c'est de même que je l'ai connue. Puis ça m'est resté, puis j'adore ça.
C'est un mouvement très lent.
Hein? Oui.
Et c'est toujours très beau quand c'est interprété au piano, comme c'était le cas ici. C'était Clara Kormendi, une enseignante de l'Académie Franz Liszt de Budapest qui interprétait l'œuvre. Simplement vous dire qu'il y en a 6 Gnossiennes qui ont été écrites par Satie. Les 3 dernières, curieusement, même s'il a écrit cela entre 1890 et 1897, les 3 dernières ont été découvertes seulement en 1968. 1968, il faut le faire. Les Beatles étaient presque à leur sommet à ce moment-là.
Ben oui.
Et Satie venait encore titiller pour dire « Hey, j'existe encore! » On va enchaîner cette fois non pas avec Satie, mais avec un autre de vos choix que je trouve très, très beau. C'est Nana Mouskouri, l'adaptation de « Va Pensiero », qui est devenu en français « Je chante avec toi, liberté », qui est le cœur des esclaves juifs de l'opéra Nabucco. Alors, on écoute Nana Mouskouri.
Je chante avec toi, liberté. Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine. Thank you.
Vous aimez beaucoup la musique classique, Renald Grenon?
Oui, beaucoup, beaucoup. C'est chez moi, lorsque lorsque je suis seul dans la maison, bien, je me mets de la musique.
Et que Nana Mouskouri ait adapté cette pièce de Verdi, vous vous sentez pas outre mesure?
Pas du tout, pas du tout. C'est Nana Mouskouri, une très belle voix qui s'adapte très bien à cette pièce-là.
Et vous avez écouté beaucoup de musique, me disiez-vous, quand vous étiez plus jeune. Vous avez eu l'occasion d'écouter...
Oui, mais c'était pas du classique, là.
C'était un peu de tout.
C'était, je me souviens, on avait les petits radios de... Vous savez, là, avec un aiguille qui se promène de gauche à droite, là.
Vous écoutiez les Beatles?
Oui. Les Beatles, au début des Beatles, oui, je les écoutais, mais...
Attention à ce que vous allez dire, parce que notre technicien, c'est un spécialiste des Beatles.
Il n'était pas bienvenu au départ.
D'accord. Alors, vous étiez plus Fernand Gignac, peut-être?
Non, beaucoup de... J'écoutais, même dans notre coin de pays, qui est quand même assez loin de Montréal, j'écoutais C'est Corveilleul, C'est Cassé, et il y avait des émissions de jeunesse dans ce temps-là, là, à la radio, là.
Mais que diriez-vous si on vous faisait entendre du Fernand Gignac?
Pas de problème. Pas de problème. Ça a été un bon chanteur qui a fait son temps.
Et la pièce qu'on va vous faire entendre, c'est un des premiers succès de Fernand Gignac, mais qu'il a refait par la suite, et qui était, je dois le dire entre parenthèses, c'est très personnel, mais qui était la chanson que préférait mon papa. Alors, la chanson a pour titre « Tout le long des rues ».
Tout le long des rues, je m'en vais la nuit venue, chercher jusqu'au petit jour, tout ce qui reste de notre amour. Pas un coin, pas un quartier, qui ne parle tout entier de mon rêve disparu. Tout le long des rues, le vent traîne sa rengaine dans un ciel aussi lourd que ma peine. Les nuages sont l'image des beaux jours qui ne reviendront plus. Dans la foule qui s'écoule, le passé lentement se déroule jusqu'au tendre soir. Où plein d'espoir, nos cœurs se sont connus. Tout le long des rues, je m'en vais la nuit venue, chercher jusqu'au petit jour tout ce qui reste de notre amour. Vagabond sentimental, mon cœur danse un dernier bal pour une ombre disparue. Tout le long des
En se promenant tout le long des rues, Renald Grenon, on a à peine effleuré le sujet du bénévolat. C'est déjà presque la fin. On est obligé, puis avec grand plaisir, de vous inviter à nous revenir la semaine prochaine.
Ben oui, si c'est votre vœu, il n'y a pas de problème.
Et on est très heureux que vous acceptiez.
Oui, certainement.
Alors, on pourra parler davantage de... Qui est Renald Grenon? On n'a pas parlé de votre carrière d'enseignant. Ça serait peut-être intéressant de découvrir ce que vous avez fait pendant toutes ces années. On va se quitter et je vais vous laisser le temps de la présenter, mais auparavant, je veux juste dire que cette émission a été réalisée sous la supervision bienveillante de notre cher technicien, Pierre Degagné, à l'animation et la réalisation Armand Dubois. Et le thème de fermeture de cette émission où notre invité était Renald Grenon, il va vous la présenter lui-même parce que c'est son choix.
Adagio en sol mineur de Tommaso Albinoni par l'Académie Saint-Martin in the Fields, direction Neville Marinaire.
Et pourquoi donc cette pièce, en deux mots?
J'aime beaucoup Albinoni. Il n'y a pas de raison particulière. Mon choix musical va selon mes écoutes que je fais puis que
et celle-là que vous touche particulièrement.
Oui.
Alors, à la semaine prochaine, et restez à notre antenne. Il y aura bien sûr beaucoup d'autres émissions pour satisfaire vos belles oreilles, vous qui êtes à l'écoute.